Qu'est-ce qui chute en 1453? Bah, c'est d'abord un grand nom éclatant et sonore, Constantinople. C'est un souvenir qui tombe. C'est un souvenir très ancien et avec toute la gloire politique, religieuse qui lui est associée. Fondée en 330 sur le site de l'antique Byzance, Constantinople est d'abord la ville de Constantin, la capitale des premiers empereurs romains chrétiens. C'est la deuxième Rome, le phare du christianisme orthodoxe depuis plus de 1000 ans. Mais en avril 1453, les armées du sultan Mehmed II mettent le siège devant la ville et s'en emparent finalement le 29 mai 1453. Les historiens y voient l'acte de décès de ce que l'on appelle encore l'Empire byzantin et l'acte de naissance de ce qu'on appellera désormais l'Empire ottoman. Et ça va être ça, à partir de 1453, l'histoire qu'on nous raconte. C'est que la date du 29 mai 1453 fait rupture. Rupture dans l'ordre du temps. Elle casse en deux la frise chronologique. Avant le Moyen-Âge, après les temps modernes. Pourquoi ? Parce que le Moyen-Âge est au fond la lente agonie de Rome. Et de ce point de vue, 1453, la chute de la seconde Rome et de l'Empire romain d'Orient, fait écho à une autre chute survenue 10 siècles plus tôt, en 476. C'est la chute de la première Rome, la capitale de l'Empire romain d'Occident. Ce que dit l'expression même de chute de Constantinople, c'est qu'on assiste là à la fin annoncée d'un monde. Et tout le monde comprend que, puisqu'on est à un moment charnière, puisqu'on est à un lieu charnière, cette fin du monde, eh bien, précipite l'avènement d'un nouveau monde. Ce nouveau monde, c'est d'abord celui de l'expansion ottomane. L'empire qui se constitue au XVe siècle durera jusqu'au début du XXe siècle. D'ailleurs, l'Europe se construit à partir de 1453 en réaction à la menace turque. Bloqués par les Ottomans à l'est, les Européens vont très vite tourner leur regard vers l'ouest, c'est-à-dire vers l'Atlantique, et c'est le début de la grande aventure maritime et coloniale vers l'Amérique. Mais puisque ce qui chute en 1453, c'est la seconde Rome, celle qui va relever le drapeau du christianisme en terre d'Orient, Moscou, devient la troisième Rome, et les tsars de Russie se veulent les héritiers des souverains byzantins. Et voyez comment, parlant de 1453, je parle de tout ce qu'il y avait avant, 1000 ans avant, et de tout ce qu'il y aura après, plusieurs siècles après. Mais ce qui disparaît alors, c'est l'événement lui-même. Un événement qu'il faudrait, au fond, aller chercher patiemment, à hauteur d'homme, voir de quelle incertitude il est fait, voir de quelle étoffe de chagrin, d'espoir, de violence il est tramé. Non, on veut d'emblée que ça soit une rupture, que ça soit une sorte de grand moment d'une histoire à majuscule vue du ciel. Cette histoire vue du ciel, d'ailleurs, était déjà celle des contemporains eux-mêmes, car beaucoup d'oracles annonçaient l'imminence d'une grande catastrophe dans le ciel de la chrétienté. Sauf qu'au XVe siècle, Constantinople était encore une ville riche, puissante, en pleine renaissance même. De l'Empire du Ve siècle, elle ne conserve certes que quelques lambeaux dispersés autour de la mer Noire, dans la mer Égée ou en Grèce continentale. Mais elle rayonne sur toute la Méditerranée orientale, rivalisant même avec Venise, Rome ou Gênes, les grandes cités italiennes de l'époque. Aussi est-il faux de considérer cet empire byzantin comme en décomposition, comme une lente et inexorable décomposition. Ça, c'est vu de trop loin, c'est vu de trop haut, c'est vu du millénaire. Si on prend le siècle comme mesure, c'est une société qui est vivante, qui est active, qui est en état de recomposition sociale, politique, territoriale. Avec 50 000 habitants, la ville flotte un peu dans son enceinte de 1450 hectares qui a pu en abriter 10 fois plus 10 siècles plus tôt. Mais par ses monuments antiques, son hippodrome, son grand palais, ses nombreuses statues et colonnes, et surtout Sainte-Sophie, la plus grande basilique de la chrétienté, Constantinople jouit d'un prestige unique qui attire et fascine bien au-delà du monde grec et orthodoxe. Les Latins, notamment vénitiens, se sont installés tout au long de la Corne d'Or, et les Génois ont même établi une puissante colonie à Péra, également appelée Galata. Les mondes chrétiens, latins et chrétiens orthodoxes, ils sont imbriqués. Ils sont imbriqués économiquement, ils sont imbriqués dynastiquement. Les empereurs sont les cousins de tout le monde. Ils sont imbriqués politiquement et culturellement. À la veille de 1453, il y a longtemps que Byzance et l'Occident latin ne forment plus deux mondes séparés. Depuis le grand schisme religieux de 1054, il est vrai, l'Église orthodoxe ne reconnaît pas la suprématie de Rome, d'autant qu'en 1204, les armées latines ont saccagé Constantinople lors de la quatrième croisade. Mais depuis, marchands, artistes et savants ont tissé des liens de plus en plus étroits entre les rives grecques et latines de la Méditerranée. On est donc, vu du siècle, dans un moment de rapprochement où une union entre les deux églises devient enfin possible. Elle est même proclamée en 1439 par le concile de Ferrare-Florence qui ouvre la voie d'une renaissance commune entre grecs et latins. Mais il n'y a pas que les humanistes et les savants à faire le voyage en Europe. Il y a aussi les empereurs. Manuel II, puis son fils Jean VIII vont à Paris, à Londres, à Rome, à Barcelone pour alerter les souverains latins qu'un grand projet impérial se prépare, qu'il y a une menace turque qui, d'une certaine manière, se profile à l'horizon et que cet horizon est commun. Qu'il ne s'agit pas simplement de l'avenir des Grecs, de leurs souvenirs glorieux, de leur église orthodoxe, des trafics commerciaux des Vénitiens, qu'il s'agit, c'est en tout cas ce qu'ils disent, du destin de l'Europe. Cette menace, elle est encore visible à l'œil nu aujourd'hui. C'est le fort de Roumélie-Hissari qui commence à être construit au printemps 1452. Érigé sur le Bosphore, le détroit qui fait la charnière entre l'Europe et l'Asie et qui constitue la principale voie maritime vers Constantinople, il jouera un rôle majeur lors du blocus puis du siège de 1453, empêchant renforts et ravitaillements de parvenir jusqu'aux assiégés. Construit en 4 mois seulement, Roumélie-Hissari met sous les yeux de tous le danger qui s'annonce. Et pourtant, rares sont alors en Occident ceux qui se donnent la peine de voir en temps et en heure. Au fond, cette myopie européenne, c'est pas simplement celle des souverains latins du XVe siècle, c'est la nôtre encore aujourd'hui. On attend, y compris lorsqu'on raconte l'histoire, 1453 pour décrire l'intrusion des Ottomans sur la scène européenne. Mais ils y sont depuis bien plus de temps. Les Ottomans ont d'abord étendu leur territoire vers l'est à la fin du XIIIe siècle. Mais en Anatolie, ils se heurtent aux puissantes tribus turkmènes et c'est donc vers l'Europe qu'ils se sont tournés dès la seconde moitié du XIVe siècle, transférant même leur capitale à Andrinople, aujourd'hui Edirne, en Turquie. En 1371, la bataille de la Maritsa leur ouvre les portes des Balkans. En 1389, leur victoire à Kosovo-Polié les rend maîtres des royaumes serbes. En 1391, le sultan Bayezid Ier tente un premier blocus de Constantinople, suivi d'un second en 1394 qui durera 8 ans. Les Byzantins jouissent ensuite d'une vingtaine d'années de paix, jusqu'à ce qu'en 1422, le sultan Mourad II, le père du futur Mehmed II, tente à son tour de s'emparer de leur capitale. Bref, en 1453, tout le monde sait que Constantinople attise depuis longtemps l'appétit des Ottomans. Mais encore une fois, raconter l'histoire ainsi, c'est-à-dire, bah oui, c'est fatal, depuis le XVe siècle, les Ottomans regardent vers Constantinople, c'est peut-être encore trompeur. Parce que qui construit ce fort au printemps 1452 ? C'est un jeune prince qui n'a pas du tout encore le profil d'un conquérant. Le conquérant, Fatih en turc, est le surnom que l'histoire lui donnera a posteriori. En 2012, c'est d'ailleurs le titre du péplum que le cinéaste turc Faruk Aksoy lui a consacré. Sauf que, lorsqu'il devient sultan en 1451, Mehmed II est un jeune prince ambitieux, mais qui doit encore conquérir sa légitimité. C'est un homme raffiné, polyglotte, lecteur de la geste d'Alexandre. Et toute cette culture, il va la mettre à contribution pour accomplir ce que le cinéaste présente comme un destin prophétique.
Nous n'avons pas de plus grande tâche, cela dans l'intérêt de notre peuple, que la conquête de Constantinople. Nous devrons faire preuve d'une grande patience avant de pouvoir éliminer un par un chaque obstacle qui nous permettront de nous emparer de la ville.
Le projet d'attaquer Constantinople, minutieusement préparé, a été présenté à la cour d'Edirne par Mehmed II lui-même à l'hiver 1452. Et puis le 4 avril 1453, Mehmed II s'installe devant Constantinople, avec ses machines de guerre, avec son artillerie, avec ses tentes. Et là, on ne peut plus ignorer, évidemment, que le dénouement est proche. Ce dénouement, la conquête de Constantinople par l'armée ottomane, le film de Faruk Aksoy cherche à en faire un objet de fierté nationale pour le public turc d'aujourd'hui. De l'histoire à grand spectacle encore. Mais il est vrai qu'à l'époque déjà, la puissance des Ottomans frappe les esprits. Face aux 7 ou 8 000 combattants assiégés, dont un quart environ sont latins, Mehmed II a réuni plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de milliers d'hommes. Sauf que, contrairement à ce que montre le film, ils ne sont pas tous musulmans. Il y a des mercenaires chrétiens, des tributaires du sultan et surtout des janissaires, ces fantassins d'élite recrutés parmi les esclaves et les captifs. Mais le génie militaire des Ottomans est avant tout technologique. Sur le plan militaire, la prise de Constantinople, c'est un des premiers faits d'armes qui est massivement imputable à la force de l'artillerie. Une artillerie que le sultan Mehmed II et ses généraux savent très bien déplacer, et elle va faire des dégâts considérables. Face aux canons ottomans, le seul véritable atout des assiégés, c'est la muraille. Avec leurs trois lignes de défense renforcées de tours et de fossés, reliées à l'enceinte maritime, les 6 kilomètres de remparts terrestres constituent un chef-d'œuvre de l'architecture militaire qui a résisté pendant 11 siècles à toutes les agressions. Il faudra d'ailleurs plusieurs semaines aux canons de Mehmed II pour y ouvrir des brèches et parvenir à en faire enfin tomber quelques ponts avant de pouvoir lancer l'assaut final le 29 mai 1453. Là encore, il ne faut pas simplement au motif que le rapport de force sur le plan humain et technologique est écrasant pour les Ottomans, penser que c'était joué d'avance. Jusqu'aux dernières heures du 29 mai, c'est encore très incertain. Pendant les mois d'avril et de mai 1453, l'empereur Constantin XI et ses alliés ont repoussé toutes les attaques ottomanes, au point que plusieurs de ses lieutenants conseillent à Mehmed II de renoncer à son projet. Dans la nuit du 21 au 22 avril, le sultan a réussi à faire transporter des dizaines de navires par-dessus la colline de Galata pour les positionner dans la Corne d'Or, bloquant la flotte byzantine, et le 29 mai à 3h du matin, il décide de donner l'assaut terrestre. Une atmosphère de mystère baigne les dernières heures de Constantinople. On sait qu'à l'aube, un groupe de combattants parvient à prendre la porte de Carisios, alors qu'un second entre par la Kerkoporta. Un troisième, surtout, gagne la porte Saint-Romain, gardée par le Génois Longo, gravement blessé au combat. Un vent de panique souffle alors parmi les assiégés. D'autant qu'on annonce au même moment la mort de l'empereur Constantin XI. Et le 29 mai 1453, à midi, Mehmed II entre dans la ville conquise pour se rendre à Sainte-Sophie, où se sont retranchés les derniers combattants.